Vous avez entendu dans la deuxième lecture à quel point le Seigneur veut souligner que la parole de Dieu est importante, qu'elle peut nous aider profondément et nous faire un bien fou. Et je crois que le texte que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile est vraiment un de ces textes qui peut vraiment nous faire profondément du bien dans notre existence, là, tout de suite. Nous sommes dans un texte dont le genre est la parabole. Alors, un texte où on raconte une histoire, attention, qui n'est pas faite pour être comprise. Elle n'est pas faite pour être comprise du premier coup. Elle est faite pour qu'on se dise, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une veuve, un juge inique, elle a du courage, elle est exaucée et Dieu souligne que quand on prie, on est toujours exaucé tout de suite. Ah bon ? On est toujours exaucé tout de suite. Cette veuve, c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Ce juge, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il représente ? Vous voyez, c'est une drôle d'histoire, c'est une histoire bizarrement foutue. C'est fait exprès. C'est pour qu'on réfléchisse. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante, parce que sinon on ne comprendra pas la pointe de l'histoire, c'est qu'il y a un raisonnement que les écrivains bibliques utilisent beaucoup, qui est le raisonnement a fortiori. Si, a fortiori, si un juge inique a su exaucer une pauvre veuve qui courageusement le priait, a fortiori, Dieu nous exaucera tout de suite. Vous voyez, en fait, on raconte une histoire difficile à admettre pour que soit admis quelque chose d'encore plus fin, d'un peu plus sophistiqué, d'un peu plus grand, d'un peu plus large. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même se coller à quelques petites vérités qu'on a tous dans la tête et avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Par exemple, est-ce que la prière est efficace ? Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que la prière ? Et qu'est-ce qui se passe dans la prière ? Puis quand Dieu dit que la prière est efficace tout de suite, on a tous fait l'expérience, bah que c'est pas vrai. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la prière ? Une relation avec Dieu, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs formes de prière. Des prières de demande, il y a des prières d'intercession, il y a des prières de louange, il y a des prières simples de recueillement profond, il y a différents degrés. La prière, c'est simplement un acte de foi que je fais, je dis au Seigneur, Seigneur, je crois en toi, et je le manifeste par un geste qui est souvent le signe de la croix, ou par une attitude qui peut être de se mettre à genoux, qui peut être d'être dans une église, qui peut être de rentrer dans mon cœur. Et à ce moment-là, la prière a commencé. Et je peux parler à Dieu, mais je peux aussi rester en silence. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai posé cet acte de foi ? Bon, on va l'apprendre dans l'école d'oraison qui va avoir lieu là, à partir du mois de novembre jusqu'au début du mois de décembre. Mais déjà, tout de suite, je vous livre le secret. Ce qui se passe au moment où vous avez posé votre acte de foi. Et donc pour tous, c'est le cas de tous, là, tous, vous tous qui êtes ici dans cette église, Dieu le voit, Dieu vous entend, Dieu sait la disposition de votre cœur et immédiatement à la seconde où vous avez commencé à prier, Dieu se diffuse en vous. Dieu diffuse en vous ce qu'il est. C'est ça, le premier bénéfice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va vous perfectionner. Avant même d'exaucer votre demande qui est d'avoir un enfant, d'avoir une nouvelle situation, de pouvoir se sortir d'une situation complexe, de vivre paisiblement quelque chose d'injuste, de traverser les angoisses, de traverser une maladie, avant de vous exaucer sur ces questions-là. Dieu agit dans votre cœur pour que vous soyez, agit dans nos cœurs, pour que nous soyons capables de traverser ces épreuves, de traverser cette vie. Parce qu'on le sait tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tous, on le sait. Sauf les petits bébés dans le ventre de la mère, et encore. Donc, à chaque acte de foi, Dieu se diffuse en moi. Et qu'est-ce qu'il fait en moi? Il transforme trois choses, trois choses, l'intelligence, la mémoire et la volonté. L'intelligence, pour mieux comprendre ce qui m'entoure, la volonté, pour pouvoir passer à l'acte, quand la puissance de l'amour qui est en moi m'envahit, il faut bien un moment que je passe à l'acte, il faut que j'embrasse, il faut que je donne, il faut que j'accueille. Vous voyez, il y a un passage à l'acte qu'on doit faire et qui n'est pas si évident à faire. Il faut que notre volonté soit transformée. Et tous on fait l'expérience de savoir à peu près ce qu'il faudrait faire. Un coup de téléphone, une visite, un SMS. Mes frères et sœurs, honnêtement, on ne le fait pas. Oh, pas les paroissiens de Notre-Dame des Victoires. Eux, c'est des saints, ils font toujours ce qu'ils veulent. Mais enfin, on a besoin de la prière parce que la prière nous perfectionne. Et pas seulement parce que la prière nous perfectionne, mais parce que la prière perfectionne, par forme de ricochet, ce qu'il y a autour de nous. Quand vous entrez dans cette église et que vous priez, Dieu se donne à vous et vous perfectionne. Mais du coup, quand vous sortez de l'église, vous êtes perfectionné. Vous avez été amélioré. Vous avez été augmenté de quelque chose de divin. Et du coup, quand vous retrouvez vos amis à l'extérieur de l'église, c'est pour ça que ça papote toujours à l'extérieur de l'église d'ailleurs. Quand vous retrouvez vos amis, quand vous vous retrouvez dans les situations que vous avez à vivre, vous les vivez plus de la même façon, c'est aussi simple que ça. Parce que vous avez été transformé par la prière. C'est ce qui faisait dire notamment à Colette que le chemin le plus usé entre le Palais Royal et le boulevard Poissonnière, c'était le chemin qui allait du Palais Royal à Notre-Dame des Victoires. Parce que si vous passez une journée assis sur une chaise comme Jean-Jacques ou Franck, à regarder les gens qui entrent et qui sortent à Notre-Dame des Victoires, vous allez observer toujours la même chose. Ils entrent fermés, ils ressortent ouverts. Enfin, ceux qui se sont ouverts à la grâce. Donc vous voyez, premier fruit de la prière, la personne humaine est améliorée. Deuxième fruit de la prière, les gens qui sont autour de cette personne, de ces personnes vont être améliorés. Et donc le monde va être amélioré. Et c'est ce qui fait dire à Dieu qu'il exauce tout de suite. Ce qu'il exauce tout de suite, ce n'est pas précisément ce que vous, vous avez demandé. Mais ce qu'il fait tout de suite, c'est que tout de suite, il vous affine, il vous ajuste pour que vous puissiez vivre ce qui est en train de se passer et dont le Seigneur n'est pas forcément le responsable. Mais non, le Seigneur n'est pas responsable de tout. Le Seigneur peut tout. Attention, ça va être brutal. Le Seigneur peut tout, mais il ne peut pas tout. Le Seigneur peut tout, mais il ne peut pas tout. Il peut tout faire s'il est Dieu. Mais comme il nous aime et qu'il nous a voulu libres, il ne peut pas aller contre notre liberté. Il peut tout, mais il ne peut pas tout. Et si on s'est mis dans une situation à cause de notre péché, à cause de notre orgueil, à cause de notre égoïsme, à cause de notre avidité au bien, à cause de notre avidité au pouvoir, etc., la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de nous faire comprendre la situation dans laquelle on s'est mis. Et puis il va essayer aussi de nous faire comprendre notre péché. Et une fois qu'on sera revenu à un réalisme un peu plus juste, alors il y a des chances que les choses se dénouent en profondeur. Et que ce qu'on désirait du plus profond de notre cœur advienne, vous voyez. Nous ne savons pas, nous connaissons peu, vous savez, Et nous avons vraiment tellement besoin que Dieu agisse en nous. Et on ne sait pas très bien pourquoi, tout d'un coup, on est exaucé au bout de 5 ans, 10 ans de prière. Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire avant, pendant 5 ans et 10 ans? Mais certainement nous perfectionner, bien sûr, encore et encore et encore. Et c'est pour ça que, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous demande une chose aujourd'hui, le courage. Il nous demande du courage. L'enfant qui veut quelque chose, quand il n'est pas exaucé comme il veut, exactement comme il veut, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle. Le Seigneur nous dit, je t'entends, arrête d'hurler, ça ne sert à rien. Puisque tu as prié, je vais te donner ce que je suis. Très bien. Et ensuite, patience. Courage. Courage, ça veut dire quoi? C'est quoi le courage? Peut-être que c'est une des choses qui nous manque le plus dans nos générations actuelles. Le courage de persévérer. Le courage d'y aller. Le courage de faire ce qu'il y a à faire. Et pardonnez-moi d'être un peu brutal, chers frères et sœurs, mais sans se poser de questions. Parce qu'il y a des choses à faire qui ne demandent aucune réflexion. Il faut les faire, point terminé, on le sait très bien. Et il faut arrêter d'analyser, parce que parfois, l'analyse empêche l'action. Imaginez un pompier qui soit devant un feu, qui passe tout le temps à analyser le feu. Je vise personne. Et ben, le feu n'est pas prêt de s'éteindre. Et c'est pareil pour tout. Il y a un moment, il faut y aller. Et on a peur. Bah oui, ça fait partie de la vie. Et on prend du risque. Mais oui, ça fait partie de la vie. Le risque fait partie de la vie. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Jean Kilevitch, le philosophe du courage et le philosophe du pardon. Un juif, type génial. Lisez Cynthia Fleury, La fin du courage, toujours de la philosophie. Mes chers frères et sœurs, vous n'imaginez pas le bien qu'il y a parfois à faire les choses juste parce qu'il faut les faire, on le sait, on le fait, point terminé. Et quand on a fini de les faire, eh bien on ne se prend pas la tête, on ne se regarde pas en arrière, on ne se dit pas « Ah, c'était bien, je l'ai bien éteint ce feu, j'ai vraiment pris mon pied ». Ben non, on rentre chez soi, on fait la soupe et on s'occupe des enfants, ou autre chose. Chers frères et sœurs, nous sommes souvent tristes parce que nous manquons de courage. Je voudrais vous donner une petite illustration qui est idiote en elle-même, je vous préviens tout de suite, c'est pas quelque chose de savant. Hein. De toute façon, vous me connaissez, c'est pas savant. C'est l'histoire de deux petites souris dans un pot de lait. Deux petites souris dans un pot de lait. Un gros pot de lait. 1 mètre de haut, le pot de lait. D'accord? Vous avez une petite souris qui se pose des questions. Comment je vais sortir de là? La vie est difficile. Je vais jamais, vu la taille du pot de lait, je vais jamais y arriver. C'est sûr. Puis, de toutes les façons, je suis malade, je suis dépressif. Mon père et ma mère m'ont pas aimé comme j'aurais voulu que mon père et ma mère m'aiment. Et patati et patata. Et vous savez ce qui lui arrive à cette petite souris au bout d'un moment? Elle coule dans le lait. Glou glou, plus petite souris, terminée, morte. Pendant ce temps-là, l'autre petite souris, courageusement, ne pose pas trop de questions. Elle nage dans le lait. Elle fait le tour du pot. Ok, elle fait le tour du pot. Je fais bien la petite souris, hein. Elle fait le tour du pot. Elle ne trouve pas la solution, mais elle a du courage. Elle prie. Elle ne s'arrête pas. En passant de temps en temps un petit coup dans le lait là pour se nourrir, parce qu'il faut bien autant en profiter. Hein. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le lait devient du beurre. Parce qu'elle a tellement nagé dans le lait. Le lait devient du beurre. Elle monte sur le beurre, elle sort du pot. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Très souvent dans nos existences, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qui manque? La prière, c'est certain. Il faut prier. Si on ne prie pas, on est mort. Si on ne prie pas, notre travail journalier ne porte pas de fruits. C'est sûr. Mais une fois qu'on a bien prié, il faut du courage. Le courage juste de faire ce qu'il y a à faire et ne pas s'arrêter. Comme la petite souris, jusqu'à ce qu'on sorte. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, la petite souris? Elle sort, elle est toute contente, elle va voir les autres petites souris et elle leur fait la leçon, un peu comme moi aujourd'hui. Mais la vérité, chers frères et sœurs, c'est que les petites souris, étant ce qu'elles sont, et bien au bout d'un moment, elles retombent dans le pot de lait. Un autre pot de lait. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben on recommence. Et c'est comme ça toute notre existence. C'est pour ça que celui qui n'a pas de courage, celui qui accepte le découragement, eh bien, je ne sais pas si sa vie va être très très heureuse. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens psychologiques d'être courageux. Eh bien, mettez-vous à deux, mettez-vous à trois, mettez-vous en fraternité. Et la prière vous montrera exactement ce qu'il faut faire. Parce que le Seigneur vous transformera de l'intérieur. C'est ce qui fait que Moïse lève les bras, n'arrête pas de prier et devient un vainqueur. Bien sûr, il est fatigué, alors ses bras tombent. Bien sûr, vous serez fatigué, vous serez tenté par le découragement, vos bras tomberont. Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Vous courez à Notre-Dame des Victoires. Vous topez une sœur, vous lui dites, ma sœur, priez pour moi. Hop, la sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie pour vous. C'est comme si elle supportait vos mains qui sont déjà en train de prier. Et à la fin des fins, vous êtes exaucé. C'est comme ça que ça marche. Demandons au Seigneur d'être renouvelé dans le don de la prière et d'être courageux. Et si ce n'est pas déjà le cas, de devenir des braves. Un brave, c'est quelqu'un qui est courageux. Devenons des braves. Amen.